tout de suite sur MDM. Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région. Avec Jeanne-Marie et Marie-Claire. Les Landes, c'est ma nature.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'émission Les Landes, c'est ma nature va se dérouler sur le domaine de l'Assobadjou à Ontanx. Frédéric et Véronique Blondeau fabriquent de l'armagnac et tiennent des chambres d'hôtes. Bonjour Frédéric.
Bonjour, je suis donc Frédéric Blondeau, armagnaculteur. Je suis installé sur le domaine de l'Assobadjou à Ontanx depuis 1999. C'est un domaine familial où mes parents, mes grands-parents, oncles et grands-oncles se sont toujours occupés de produire et mettre en marché des bases armagnacs. Nous avons également après développé notre activité de maison d'hôtes avec un gîte Bacchus. Bacchus référent bien sûr à la viticulture puisque nous sommes sur un domaine viticole. Donc mon épouse travaille avec moi. Nous avons un domaine familial sur la partie landaise uniquement consacré à la viticulture aujourd'hui et tout en agriculture biologique.
Où s'étendent exactement vos vignes? Sur Ontanx seulement ou bien sur des communes voisines?
Non, aujourd'hui toutes les vignes sont sur la commune d'Ontanx depuis le centre du village jusqu'à l'extérieur du village.
Alors votre parcours personnel, c'est-à-dire que vous dites que vous êtes viticulteur. Vous avez donc, dès le départ, fait une formation agricole?
Non, le départ ne s'est pas du tout passé comme ça, puisque je devais surtout intégrer une formation via de l'électrotechnique pour faire de la climatisation. C'était le début de la climatisation en France, donc je devais intégrer un centre de formation sur lequel j'avais déjà trouvé et la formation et l'emploi futur. Et puis les choses ont été un petit peu modifiées puisque à force de discuter et de repenser tout ça, je pensais qu'effectivement c'était un petit peu dommageable que le domaine s'arrête naturellement, alors que nos aïeux se sont démenés pour mettre en place quelque chose à un niveau assez élevé de qualité. Donc changement de cap, il fallait absolument reprendre ce domaine-là. Il fallait également une formation aussi en viticulture, d'où une formation en accéléré en viticulture œnologie sur le site du château de Mons dans le Gers, à côté de Condon, où j'ai rencontré mon épouse qui faisait la même formation aussi pour reprendre un domaine chez elle. Voilà, nous sommes rencontrés là-bas. Suite à ça, j'avais 6 mois de stage à faire, donc j'avais déjà fait par anticipation 3 mois de stage en viticulture sur un domaine en Bourgogne, un domaine Lucien Jacob. Et puis après, comme il fallait aussi partir à plus de 70 km chez soi, donc j'ai choisi de partir aux États-Unis pour aller faire les 3 mois qui me restaient de stage. 3 mois dans une très très grosse compagnie américaine sur l'état de Washington, avec une très bonne expérience aussi, où voilà, ben on apprend d'autres choses, on a un esprit libre, le côté américain est très 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 libre pour travailler. Ce qui effectivement fait un petit choc quand on revient en France et quand on se rend compte que la France est quand même beaucoup plus verrouillée.
Effectivement, on ne fait pas le lien directement entre les États-Unis et l'armagnac. Quoique, si je me souviens bien, la région de New York importait avant la Seconde Guerre mondiale de l'armagnac de Nioas.
Oui, mais tout à fait. Il y a toujours eu des marchés internationaux. Et donc le marché américain faisait partie et fait toujours aujourd'hui partie des pays qui sont acheteurs d'armagnac. Oui.
Est-ce que les Américains apprécient l'armagnac?
Oui, les Américains apprécient l'armagnac. Nous travaillons sur la côte ouest des États-Unis via un importateur où on a des armagnacs plutôt millésimés et âgés qui sont distribués sur cette partie des États-Unis.
Parce qu'il y a quand même eu, je dirais, une sorte de concurrence entre cognac et armagnac. Assez ancienne.
Il y a toujours une guerre de quartiers et de régions qui perdure toujours entre le cognac et l'armagnac, oui.
Pour revenir donc à votre formation, vous avez choisi de réaliser de l'armagnac bio, là, par philosophie.
Alors c'est par philosophie et c'est surtout le fait qu'on avait une activité qui grandissait un peu, avec beaucoup plus de risques financiers, beaucoup plus de pression aussi. Et puis on se pose, on s'arrête, et puis on regarde un peu dans quelle direction on va, ce que l'on fait, ce que ça peut donner, et on se rend compte que travailler avec beaucoup plus de chimie, c'est prendre des risques aussi, et personnels et financiers, parce qu'il y a quand même des coûts aussi derrière. Il y a des problèmes de santé aussi, quand vous commencez à avoir des éternuements suite à des manipulations avec certains produits, ça remet en question beaucoup de choses. Et puis après, c'est aussi une dépendance de certaines firmes, donc stop, on s'arrête, on se pose, et puis on dit changement de cap. on change tout, ce qui n'est pas évident comme décision à prendre, parce qu'à cette époque-là, c'était il y a une dizaine d'années, quand vous décidez de passer effectivement la totalité de votre domaine en culture biologique, ça pose des freins sur les extérieurs. Donc beaucoup de personnes ne comprennent pas, voire ne sont pas là surtout pas pour vous épauler, vous seconder. On attend tout simplement que vous vous cassiez la figure parce que c'est pour démontrer que, vous voyez, de toute façon, le bio, ça ne marchera pas, ça ne peut pas fonctionner. Alors comme je suis un petit peu têtu, un petit peu borné, moi, plus on me dit que ça ne marchera pas, plus j'aimerais que ça peut fonctionner. Et ça fonctionne.
Si j'ai bien compris, vous n'avez pas eu beaucoup d'aide au niveau de l'institution agricole ?
Ben, il n'y a pas beaucoup de viticulteurs qui sont en agriculture biologique sur notre secteur. Qui plus est, en Armagnac, on est vraiment, on peut se compter sur les doigts de la main des personnes qui font des spiritueux en bio. Donc évidemment, si vous n'êtes pas nombreux, pas représentés, pas de soutien derrière. Aujourd'hui, je pense que ça a tendance, c'est des choses qui ont tendance un petit peu à évoluer. Alors pour deux facteurs, vous avez les personnes qui philosophiquement vont se tourner par le bio, et vous avez des personnes qui, plutôt opportunistes, voient que tiens, ben, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de choses qui passent en bio, donc c'est peut-être le moment économiquement de tourner, de changer sa façon de voir les choses.
Peut-être que l'économie peut finalement amener une personne à aller vers la philosophie.
Ce qui nous manque, c'est surtout des référents pour montrer qu'effectivement, à grande échelle, on est capable de travailler. Aujourd'hui, on est sur une société d'image où il faut faire briller, amener des gros chiffres, et voilà, ça c'est bien, c'est vendeur, c'est ce que l'on veut. Sauf que moi, c'est pas ce qui m'intéresse. L'image peut être belle, mais ce que je veux savoir, c'est ce qu'il y a derrière l'image. Les gros chiffres, on peut faire des gros chiffres, faire un gros chiffre d'affaires, mais non, mais combien reste-t-il au final ? Donc c'est pas dans ce sens-là. C'est tout un tas de choses qui sont à remettre en question, à revoir différemment. C'est effectivement regarder, mais sous un autre angle. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours judicieux de faire des rendements qui sont très très élevés ? Moi je ne suis pas convaincu. D'autant plus que ces mêmes personnes, quand on leur demande combien ont coûté de faire ces gros rendements, il y a toujours un blanc qui se pose et on n'a pas automatiquement la réponse. Est-ce que c'est pas plus judicieux de faire des rendements certes inférieurs, mais avec des coûts de production qui vont être aussi inférieurs, même s'il y a un delta, ce delta-là, suivant son importance, est-ce que c'est judicieux de prendre les risques, risques financiers, donc acheter beaucoup plus de produits pour mettre en production, pour faire des gros volumes ? Moi, je suis pas du tout convaincu. De toute façon, ici, comme il faut toujours faire plus de rendement, la personne, si elle fait, par exemple, 180 hectares de rendement, ça ne va pas, il faudra faire 200, on fait 200, il faudra faire 250, on fait 250, il faudra faire 300. On ne sait pas s'arrêter, on le voit, c'est dans l'économie aujourd'hui, on ne sait pas s'arrêter. Une entreprise, ben, voilà, pour prospérer, pour grossir, il faut qu'elle se doit d'absorber le voisin. Non, on est capable aussi de travailler dans d'autres conditions. Donc tout ça, c'est un système qui est à revoir, qui arrive à un bout. Donc je pense que oui, le regarder donc sous un autre angle, via le bio, c'est se remettre en question et essayer de reconstruire autre chose.
Vous avez donc choisi une chanson que vous allez nous présenter et vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi.
Alors la chanson, c'est la chanson du film Le Dernier des Mohicans. Pourquoi cette chanson ? Parce que c'est une partie de musique sur laquelle on peut se poser tranquillement, réfléchir. Et quand on connaît le film un peu, c'est le combat d'une tribu, donc c'est peut-être aussi le combat d'une vie contre certaines choses, et ça permet donc de laisser libre son esprit, et c'est une musique qui amène au voyage aussi. C'est une musique que j'ai écoutée en déplacement aussi à l'étranger, donc dans des grands espaces, donc voilà, et on retrouve cette dimension de grands espaces à travers cette musique.
Les Landes, c'est ma nature, se trouve ce matin sur le domaine de l'Assaut Badjou à Ontanx, où Frédéric Blondeau a présenté son parcours, ce parcours qui l'a amené à choisir de produire de l'Armagnac en viticulture biologique et sur son domaine familial. Ce type de production n'est pas encore courant pour le moment, et Frédéric va donc parler de ses techniques de culture ainsi que des produits qu'il élabore sur le domaine.
Alors oui, ici sur le domaine de l'Assaut Badjou, la majorité de nos productions, c'est essentiellement de l'Armagnac. Donc on a notre vignoble qui est fait pour une partie pour faire de l'Armagnac avec des cépages traditionnels qui sont le cépage landais par définition, le Baco, seul cépage landais hybride autorisé dans une appellation d'origine contrôlée. Donc voilà, un cépage qui naturellement va être résistant aux maladies, d'où l'intérêt de le développer notamment en culture biologique. Nous avons également de la folle blanche qui sert aussi pour faire de l'Armagnac. Après, en cépage blanc, nous avons du Colombard et de l'Uniblanc qui, eux, vont plutôt partir sur un secteur de marché qui sont les vins de pays Côte de Gascogne, sous label aussi d'agriculture biologique. Et après, la troisième partie du vignoble, puisqu'on essaie un peu de diversifier nos activités, sont plutôt des cépages rouges type Merlot et Cabernet pour faire des rosés en bio ou des vins rouges en bio en Côte de Gascogne.
Donc, vous fabriquez de l'Armagnac, des apéritifs, je crois aussi, des vins et même de la bière. Vous venez de m'en parler.
Oui, alors nous fabriquons un petit peu tout ça. La partie vin de pays, c'est pas moi qui fabrique directement, donc ça c'est quelque chose qui est cédé, donc qui est fabriqué, qui est vinifié à l'extérieur du domaine. Par contre, la partie apéritif, c'est effectivement des apéritifs que nous avons ici sur le domaine, que nous élaborons de toutes parts. C'est l'assemblage de jus de raisin et d'Armagnac avec un passage en barrique. Et la typicité de ces apéritifs, qui sont donc des vins de liqueur, sont également élaborés sans soufre ajouté. Donc il n'y a pas de SO2 dans nos bouteilles d'apéritifs, ce qui permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus digeste, qui évitera certainement le mal à la tête chez certaines personnes. Et puis pour s'amuser, c'est pas la mode qui nous a amené à ça, mais c'est juste l'envie. Il y a une dizaine d'années, on a travaillé sur une bière qui s'appelle la Palombière, parce qu'il fallait trouver un nom, et on a trouvé ce nom qui était libre et qui était fantastique. Palombière, c'est l'idée qu'on a eue avec deux amis à moi, Bruno Degorin, qui est brasseur en Belgique, à Binche, donc les fameux Gilles de Binche, voilà, c'est là-bas, et Christian Beneteau, brassothérapeute, qui importe des bières belges. Donc on a eu une grosse discussion et beaucoup de rigolade pour faire cette bière. Donc c'est une bière à l'Armagnac, donc toute la technicité viennent de là. Donc j'envoie un Armagnac bio, j'envoie les fûts d'Armagnac en Belgique, à Binche, et Bruno, le brasseur, va brasser tout ça pour faire une bière qui est bio aujourd'hui. Donc c'est la seule bière bio à l'Armagnac qui existe à ma connaissance aujourd'hui.
Alors c'est une bière en contenant de 75 centilitres et 12 degrés.
Oui, c'est une bière, c'est ça, qui fait 12 degrés et qui est en bouteille de 75 centilitres, parce que non, dans la maison, on ne fait pas les mignonnettes pour la bière. Donc on fait une vraie bouteille de bière, c'est du 75 centilitres. C'est la notion de partage, on ne boit pas juste la bière pour soi, c'est la bière qu'on va partager avec d'autres personnes. Et voilà, la partie au plaisir, il faut se retrouver dans certaines valeurs.
Alors vous avez parlé de brassothérapeute, c'est un nouveau métier ?
C'est ça, brassothérapeute est un nouveau métier, donc ça c'est un terme qui est déposé, comme le terme d'armagnaculteur que j'ai déposé aussi pour une personne qui fait de l'armagnac. Il faut revendiquer son amour du métier et poser des noms sur des choses qui sont réelles.
On voit que vous avez su vraiment vous diversifier et que certainement vous aurez encore des projets dont on parlera dans le troisième volet. Mais en attendant, nous allons voir avec vous comment vous faites pour fabriquer donc ces produits avec des méthodes et des techniques d'agriculture biologique. Donc vous n'utilisez pas de produits chimiques, pas de produits phytosanitaires. Comment faites-vous ?
Alors je vais vous faire rigoler, je vais vous répondre comme j'ai répondu la première fois où j'ai dit à certains de mes camarades de jeu viticulteurs que je passais en agriculture biologique, ce qui les faisait pas mal sourire, me disant « Ah bon, mais qu'est-ce que tu vas utiliser ?» J'ai dit « Mais de la poudre de perlimpinpin, c'est ce qui marche très très bien. » Donc non, aujourd'hui on a un suivi technique, puisque j'ai une personne qui me suit sur tout l'appui technique là-dessus. On a toutes les parcelles de vignes qui sont visitées en pleine saison, tous les 8-10 jours, on a un compte rendu qui est fait sur chaque parcelle, de façon à voir effectivement où est-ce qu'on en est, s'il y a une pression maladie, et par rapport à ça, quelle est la chose à administrer, et comment on va pouvoir appréhender ces problèmes-là. Donc évidemment, pour qu'une plante ne soit pas malade, il faut qu'elle soit en bonne santé. Pour qu'elle soit en bonne santé, il faut favoriser sa pousse. Donc c'est la stimuler de toutes parts. On va la stimuler avec un appui sur des macérations de plantes, sur les produits à base d'algues. On va travailler aussi en fonction de la lune quand on le peut. Donc c'est positionner justement nos pulvérisations, parce que traitement c'est vraiment plus adapté à la chimie, moi c'est plutôt la pulvérisation. On va essayer de s'appuyer par rapport à un calendrier lunaire, donc on sait qu'on a des jours sur lesquels, si on intervient par rapport à un mouvement de lune 2 jours avant, 2 jours après, la plante va être effectivement plus réceptive. Donc on essaie de travailler ça, on travaille avec sa tête, chose que faisaient nos anciens, ils travaillaient aussi avec leur tête, ils raisonnaient. Des choses qui sont peut-être passées un petit peu dans l'oubli, puisqu'on a mis des personnes pour penser pour notre compte, ce qui n'est pas toujours le mieux, puisque c'est ces mêmes personnes-là pensaient pour notre compte et surtout pour notre portefeuille. Donc nous faisaient consommer pas mal de produits phytosanitaires pour faire tourner l'industrie chimique. Donc c'est pour ça qu'on a fait un coup de cap à gauche tout et reprenons notre indépendance et c'est apprendre notre métier, savoir pourquoi le végétal pousse, comment il pousse et apprendre à le défendre. Après, on a des solutions, il faut juste nous laisser un petit peu de liberté et pouvoir travailler tel qu'on le désire, et arrêter de nous interdire tout procédé, que ce soit des macérations de plantes, s'il faut aujourd'hui tout décrypter, donner des homologations sur tout, c'est pas possible de travailler comme ça.
Vous savez bien que les interdits sont liés effectivement à la pression des lobbies.
Oui, bien sûr. Les lobbies sont là, mais les lobbies, ben, il va falloir qu'ils se rangent et qu'ils se mettent un petit peu à leur place et qu'ils nous laissent travailler. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer à nourrir l'espèce humaine avec des produits qui sont faits avec tout et n'importe quoi. Quand on fait les analyses, si on pousse les analyses, oui, je pense qu'on va retrouver des résidus sur beaucoup de produits. Il y a quand même un aspect sécurité alimentaire, on nous en parle tous les jours. Ben, en parler, c'est bien, mais après, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je suis pas là pour faire de la politique, parce que moi, je vais jusqu'au bout de mes idées. Donc, c'est pas juste la bonne parole prêchée en bonne paroisse, c'est que je vais jusqu'au bout de ce que je dis. Donc, quand je dis qu'on peut travailler différemment, on le peut, et puis on y arrive.
Alors, dans ce que vous avez exposé, dans votre méthode, par exemple, qui consiste à travailler aussi avec le calendrier lunaire, en fait, on a l'impression que c'est de la biodynamie. Est-ce que c'est ça ?
Alors, c'est pas de la biodynamie, je suis pas en biodynamie. Biodynamie, c'est encore quelque chose de plus complexe. Peut-être que demain, on traversera par ce système-là. Je ne sais pas. Pour le moment, c'est le bio qu'on essaie de maîtriser. Donc, ça demande quand même pas mal de temps pour se caler là-dessus et comprendre le fonctionnement, les tenants, les aboutissants. Donc, quand on sera vraiment bien à l'aise dessus, peut-être qu'on passera sur de la biodynamie, mais ça, on verra en temps voulu.
Pour terminer cette seconde partie, Frédéric, vous nous proposez une chanson de Roxette, It Must Have Been Love.
Must have been love.
reprenons le cours de cette émission, donc chez Frédéric Blondeau, au domaine de la Sauvageur en Tanx, qui nous a exposé la façon dont il travaille ses vignes pour obtenir de l'armagnac, de la bière même, mais pas faite sur place, hein, faite avec de l'armagnac, et des apéritifs qui sont donc vendus, notamment sur le domaine, mais pas seulement, bien entendu. Nous poursuivons avec les méthodes qui sont utilisées pour garder ces vignes en parfaite santé.
Alors, pour que nos vignes soient en parfaite santé et soient vraiment très belles, on va surtout s'appuyer sur le sol, puisque le sol est la base de tout. Donc, il faut effectivement qu'on ait un sol qui soit équilibré et qui ait une dynamique. D'où, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on travaille sur les sols avec des engrais verts qui sont faits, notamment des féveroles, qui nous permettent de fixer l'azote et relâcher après l'azote dans le sol, de drainer le sol, de travailler le sol. On travaille un rang sur deux, donc on n'a pas de problème d'érosion, on a toujours quelque chose qui va être mis sur le sol. On a également l'appui des insectes qui est naturel dans l'étape, puisqu'on a maintenu les en bordure de toutes nos parcelles de vigne, donc ce qu'on appelle ici communément des barres à dos, donc des sont entretenus, c'est pas automatiquement qu'un roncier, c'est un nichoir aussi, donc on a pas mal d'insectes qui vont se mettre dedans, on a des oiseaux qui vont être là aussi pour réguler. Donc voilà, quand on se balade dans nos vignes, oui, on entend aussi les oiseaux chanter et on peut respirer. Donc la nature reprend son droit et on arrive à réguler via la nature. Il faut laisser la nature faire son travail aussi et pas tout vouloir toujours diriger et contrôler. On est là pour vérifier qu'il n'y ait pas d'accident. Après, comme on fait au coup par coup, on analyse à chaque fois tout ce qui se passe tous les 8-10 jours. Donc par rapport à ça, on est capable de mettre en place une procédure s'il y a besoin.
Alors, vous avez évoqué, lors de notre discussion préparatoire, l'agro-homéopathie. Vous avez fait un stage de formation dans ce domaine pour aller sans doute un petit peu plus loin encore. Vous pouvez expliquer ?
On est parti du constat que l'homéopathie, voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est intéressant et qui a déjà prouvé des résultats. Pourquoi ne pas l'appliquer aux plantes ? Donc, j'ai eu connaissance d'un stage de formation là-dessus. Donc je suis allé voir un peu comment ça se passait et ce qu'il y avait. Et comme dans tout stage, il y a toujours des choses qui sont très très intéressantes. Notamment, on avait des personnes voilà, qui travaillaient là-dessus. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait des années qu'ils fonctionnent avec ça. On a des résultats. Donc à nous de mettre en œuvre tout ça. Et pourquoi pas ? Moi, je suis toujours ouvert à tout. Et puis la meilleure des choses, c'est on le vérifie de par nous-mêmes. Comme ça, on est sûr de ce que l'on fait. Et on sait exactement ce que l'on utilise aussi.
Alors, nous avons fait un petit tour de vos pratiques. Et maintenant, comment commercialisez-vous vos produits ?
Alors, pour la partie commercialisation, on a bien évidemment sur le domaine une vente qui se fait sur place. Hein, pour les personnes que nous avons ici en hébergement, en gîte, et les personnes qui passent la saison en tourisme et les locaux. Après, on a également des partenaires qui sont des cavistes, on a des partenaires restaurateurs. On travaille essentiellement sur Paris, sur la restauration. Et après, on fait également quelques marchés l'été sur la côte. Ou là, je serai en Bourgogne dans quelques semaines. D'autres marchés en Alsace, puisque historiquement, on est jumelé avec un village alsacien. Donc, nous allons lier l'utile et l'agréable. Donc, aller faire un petit peu de commerce et surtout prendre du plaisir à aller voir nos amis alsaciens.
Et vous allez emporter, bien sûr, un stock de bière. La bière alsacienne est bonne, mais la bière belge est meilleure.
Et hop là, ça, la bière belge, ça aussi, c'est bon. Hein.
Bien. Vous avez certainement beaucoup de projets pour continuer votre activité et la diversifier. Vous pouvez nous en faire part ?
Les projets sont tellement vastes et variés. C'est qu'on a toujours des idées qui naissent, on va pas dire tous les jours, mais assez souvent. Donc je pense qu'on a déjà fait un gros travail de restructuration de vignoble où on est pratiquement au bout de ce que je concevais. On retravaille aujourd'hui sur les principes de fabrication dans nos chais, quelque chose, un outil qui soit encore beaucoup plus facile pour travailler. Ça, c'est la partie très technique. Après, on a toujours des projets de nouveaux produits, de nouvelles gammes de spiritueux, de nouveaux essais, puisque s'endormir sur ses lauriers, c'est pas tout à fait dans nos gènes, donc on essaie toujours de chercher de nouvelles choses. On garde l'existant, la typicité de l'armagnac millésime, mais voilà, on a travaillé sur des single casques, un armagnac avec une finition en fût de sauterne. Voilà, quelque chose qui révèle des arômes qui sont surprenants et très intéressants. On a d'autres gammes d'apéritifs qui sont déjà prêtes et qu'on mettra peut-être en marché ou pas. On travaille sur de nouvelles bouteilles. On travaille sur peut-être la recherche aussi sur de nouveaux cépages en vigne qui peuvent être intéressants. Donc il y a plein de choses qui font que tous les jours, c'est une autre journée qui sera différente. Dans les projets à venir, c'est effectivement développer un petit peu plus au volet œnotourisme, puisqu'on avait commencé le œnotourisme avec notre gîte Bacchus. donc gîte rénové, qui est un ancien pigeonnier, rénové en gîte pour deux personnes. Vous avez un spa, piscine, VTT, bar à vin, voilà tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, c'est aller encore un petit peu plus loin, c'est faire des thématiques, donc faire des séances de dégustation que l'on fait sur le domaine, d'initiation à la dégustation, de connaissances, peut-être faire des marchés, ramener les gens à juste comprendre ce que l'on fait et se rapproprier aussi un petit peu la région. C'est voir qu'on n'a pas l'impression, mais on ne connaît pas automatiquement son voisin. Et ça, c'est non. Aujourd'hui, certes, c'est l'époque d'Internet. On va communiquer avec le bout de la planète, mais on peut aussi communiquer avec le local. Et le local, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc c'est vraiment cette notion de réseau et travailler avec d'autres personnes aussi pour s'appuyer, vraiment remailler un territoire qui a besoin de se développer parce qu'on est dans les Landes, certes, mais les Landes, ce n'est pas que la côte et que l'océan. Il y a aussi le centre des terres et le centre des terres, il y a aussi une dynamique. Donc voilà, c'est ramener, quand on fait des repas au pied de l'alambic pour la distillation, voilà, c'est la notion de partage et d'échange, les gens viennent. Chaque fois, on élabore de nouveaux menus avec des recettes anciennes ou pas, des choses voilà, qui nous font plaisir et sur lesquelles on essaie vraiment de faire partager tout notre amour de notre métier et notre façon de voir les choses.
Vous êtes installé dans un très beau village, qui est un village historique, qui, je crois que c'est la plus ancienne mention d'un village au Moyen-Âge. C'est celui de Hontanx. Le seigneur de Hontanx existait. Il est déjà mentionné à la fin du XIe siècle. Donc quand même, il y a une tradition, je dirais patrimoniale, qui peut tout à fait être un plus par rapport à votre production.
Absolument. Hontanx, c'est un village qui est superbe, avec une très très bonne dynamique. On a quand même beaucoup d'associations, donc qui permet d'avoir beaucoup d'activités. Là, dans quelques jours, on aura le premier trail qui va être organisé, donc une course faite sur la commune de Hontanx. Voilà, c'est une première, le trail des étangs. Voilà, on a toujours cet esprit dynamique et de cohésion, avec encore des commerces aux proximités, donc chose qui est très très importante. Et c'est à nous de maintenir tout ça et de faire travailler en ce sens-là, oui.
Vous êtes sur Hontanx, en tout cas, le seul viticulteur installé en bio. Ou bien est-ce que vous avez des collègues qui ont été sensibles à votre démarche ?
Non, en culture biologique, en viticulture, nous sommes les seuls sur le secteur d'Hontanx et même sur les alentours. On n'a pas encore beaucoup de domaines qui est tenté de passer le cap et se mettre directement en agriculture biologique. C'est en train de bouger un petit peu. Je pense que dans les années à venir, il y aura un peu plus de domaines qui seront sur ce type d'activité-là, ou au moins des domaines qui le sont déjà vont peut-être s'agrandir pour être un peu plus présents sur ce marché. Oui.
Une question que ma collègue Marie-Claire, qui n'est pas là aujourd'hui, vous aurait posée et à laquelle j'espère vous pourrez répondre. Si un jeune a envie de suivre vos traces et de s'installer, que lui conseilleriez-vous ?
Pour poursuivre quelque chose, il faut effectivement y croire et avoir des convictions. Si on ne croit pas à ce que l'on fait, il vaut mieux faire autre chose. C'est beaucoup plus simple. C'est pas simple. Là, j'avais encore des BTS en formation Vitiono qui sont venus la semaine dernière. J'aurais expliqué que ben voilà, tout n'est pas rose, c'est pas vrai. Je suis pas là pour raconter la belle histoire, que tout va pour le mieux. Non. Il y a des moments qui sont compliqués, des moments qui sont très bien. C'est dur. On peut pas dire que ce soit facile. Être chef d'entreprise, c'est un métier. On fait des concessions. On travaille aussi avec le temps, donc on n'est pas libre de tout. On a la météo qui est au-dessus de nous et qui va diriger beaucoup de choses. Après, c'est quelque chose qui est relativement intéressant puisque c'est un métier qui est complet. Ça nous demande des connaissances en agronomie. Maintenant, plus de l'homéopathie si on va un petit peu se tourner là-dessus. Donc c'est la faune, la flore. Ça nous demande des connaissances en machinisme, en électricité parce qu'on a besoin de pas mal de choses, en marketing, en vente, en comptabilité. Donc c'est vraiment quelque chose de très très complet. C'est ça qui est intéressant dans ce domaine-là. Après, pour pouvoir effectivement reprendre des activités, il faut surtout aller voir ailleurs. Donc l'expérience, c'est ça. C'est pour ça que les stages, je ne regrette pas du tout. J'ai toujours de très bons contacts avec les personnes qui m'ont permis de faire ces stages-là en France et à l'étranger. C'est le moment où on peut effectivement aller voir un petit peu ailleurs comment ça se fait, avoir une autre vision, se détacher de notre quotidien. On ne peut avoir un esprit libre que si effectivement on se laisse la possibilité d'être ouvert d'esprit. Et ça, l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui est important, qui est valable pour tout. C'est qu'on n'est jamais au bout de ses connaissances. On est en perpétuelle des quêtes de nouveautés. C'est toujours suivre ce qui se fait. Où est-ce qu'on en est, point de vue technologique? Où est-ce qu'on en est, point de vue recherche? Voilà, ça, c'est notre quotidien. Après, c'est quelque chose que j'affectionne aussi. Mais c'est ça qui nous permet de rester toujours à l'affût de ce qui se passe et d'avancer. Donc après, oui. Moi, je suis aussi maître de stage. Donc, j'ai des personnes qui ils peuvent venir en stage sur le domaine, ou voilà, je sais ce que c'est. Et moi, j'ai adoré les périodes de stage où on m'a permis de voir l'ensemble d'un domaine d'activité. C'était pas juste le stagiaire qui va nettoyer le chai ou ranger, non, non. Sur tous les stages, on m'a permis beaucoup, beaucoup de liberté de voir tous les secteurs d'activité. Donc c'était depuis le bureau, passage par le labo, par assister les œnologues, passer sur le vignoble, responsable de chaîne, responsable de chai, voilà, avec un esprit très très libre où j'avais effectivement la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc ça c'est bien, ça permet de se faire, de se construire et d'apprendre.
Après cette conclusion optimiste, je vais vous demander de donner vos coordonnées à nos auditeurs afin qu'ils vous contactent si besoin. Donc numéro de téléphone, adresse, page Facebook, coordonnées de votre site.
Alors c'est très très simple, donc Frédéric et Véronique Blondeau à Ontanks. Nous sommes aux 4 routes du métier, c'est le centre du village à Ontanks. Donc la grande maison blanche, c'est le centre du village. Nous avons un site internet, vous tapez sur un moteur de recherche Lassobadju, LASSAUBATJU, et vous allez tomber sur notre site, vous avez toutes les coordonnées.
Et une page Facebook ?
La page Facebook, c'est sur Lassobadju aussi.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour me recevoir. Je vous dis au revoir, je dis au revoir à tous nos auditeurs.
Merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer sur notre fonctionnement, notre façon de voir les choses. Je vous invite à venir nous rendre visite et partager un moment avec nous sur nos projets, nos ambitions et nos productions.
Adi Schatz.
Adi Schatz.
C'était les Landes et ma nature, l'environnement dans notre région, avec Jeanne-Marie et Marie-Claire.
Les Landes et ma nature, le lundi de 15h à 15h30, rediffusion en trois parties, le mardi, le mercredi et le jeudi à 13h sur MDM.